qu'on va passer maintenant à la rubrique d'Olivier
oui,
Morel.
Oui, voilà. Alors, les chroniques de l'Amérique trumpienne ou chroniques de l'une trompie.
Aujourd'hui, la chronique d'Olivier Morel, c'est l'épreuve du temps. Vivre dans l'Amérique de Donald Trump aujourd'hui, c'est faire une expérience du temps. Le temps imprimé par Donald Trump est celui d'un univers dans lequel on ne peut jamais échapper à ses permanentes, toujours oratoires, à ses annonces fracassantes, saturées de questions et d'ambiguïtés, voire d'absurdités, et où, dans le même mouvement, une sorte de routine de l'urgence et du fracas finissent par s'installer. On ne peut pas se rendre compte du phénomène en dehors des États-Unis aujourd'hui, comme entre 2016 et 2020, Donald Trump était omniprésent sur les écrans. Cette semaine, il a passé de très nombreuses heures en direct à la télévision comme dans une show de télé-réalité. Cela dit, il y a une différence fondamentale avec la première présidence de Trump. C'est ce que propose l'universitaire franco-américain Olivier Morel dans sa chronique hebdomadaire qui sera rediffusée le mercredi 19 février 2025 de 12h30 à 13h. Voici Olivier Morel dans sa chronique hebdomadaire « L'épreuve du temps ».
Si c'est une chose qu'on remarque lorsqu'on est loin des États-Unis, mais ce à quoi je m'attendais, parce que j'ai été dans l'Amérique de Trump de 2016 à 2020, ça fait bientôt 20 ans que je vis ici, c'est le fait que à partir du moment où M. Trump a pris le contrôle de la situation, c'est-à-dire est entré à la Maison-Blanche en 2016 et jusqu'à 2020, il y a des phénomènes psychologiques et des phénomènes plus précisément de relation au temps, à la temporalité, qui s'installent et que nous revivons ici aux États-Unis, toutes et tous, d'une façon ou d'une autre, depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Et donc il est arrivé le 20 janvier et Donald Trump réalise quelque chose qui touche à notre relation au temps. C'est de la temporalité du Trumpisme et de la présidence de Donald Trump que je voudrais parler ici cette semaine. Ce qui est intéressant dans le phénomène, c'est qu'en fait, je suis en train de décrire une sorte de psyché, c'est-à-dire une sorte de psychologie qui s'installe, qui est partagée, bien sûr, parce que c'est l'ensemble de la société américaine qui est touchée, qui est celle d'une sorte d'état d'urgence dans la dilatation du temps. C'est-à-dire qu'il y a deux types de temporalité là-dedans. Il y a une temporalité qui est celle de l'urgence, de la saturation, de ce qu'on dit qui a été une théorie élaborée apparemment, d'après ce que je sais, par une des éminences grises de Donald Trump, qui est Steve Bannon, qui avait un rôle très important dans la montée de Trump en 2015-2016, et qui, plus tard, hein, pendant les premiers mois de la présidence, de la première présidence de Trump, a été véritablement une éminence grise. C'est un intellectuel de l'extrême droite américaine, au profil extrêmement controversé en vérité, puisque au cours de la première présidence de Donald Trump, il a notamment d'ailleurs beaucoup voyagé en Europe et s'est appliqué à rencontrer les principaux leaders de l'extrême droite européenne, dont l'extrême droite française par exemple, mais aussi l'extrême droite britannique, sans bien sûr oublié de mentionner l'extrême droite hongroise et d'autres extrêmes droites en Europe, avec une idée de fédérer les extrêmes droites. Alors, Steve Bannon a eu un rôle très important dans ce que je vais essayer d'expliquer autour de la double temporalité du Trumpisme. En fait, il y a deux niveaux de temporalité. Il y a un niveau de temporalité qui est celui de la saturation des médias, mais de la saturation particulièrement du média télévisuel, dans un contexte où, dans le même mouvement, il y a une certaine dilatation et une longueur et une lenteur du temps qui s'installe. Comment ça marche, cette histoire? Bah, la saturation, cette idée de float the zone, c'est-à-dire float the zone, ça veut dire, c'est bien sûr cette notion de saturation, mais the float, the floating en anglais, c'est l'inondation. Donc en gros, la stratégie médiatique de Donald Trump, c'est bien sûr de saturer, c'est-à-dire d'avoir énormément d'informations qui arrivent pendant les séquences temporelles, c'est-à-dire les journées en fait. Les séquences temporelles sont les journées et parfois aussi un peu les nuits, à cause des réseaux sociaux notamment, à cause de la manière dont Donald Trump utilisait Twitter, par exemple, durant sa première présidence, où on pouvait à peu près savoir à quel moment il était levé, à quel moment il se couchait, etc. etc. On était constamment, disons, informé, c'est-à-dire affecté par ses entrées sur Twitter, ses posts sur Twitter. Alors maintenant, c'est un peu différent. On a une autre configuration, puisque M. Trump utilise toujours les réseaux sociaux, et notamment il utilise son propre réseau social qu'il a fondé après avoir été exclu de Twitter dans l'ancienne formule, c'est-à-dire avant que Twitter soit racheté par Elon Musk et devienne X. Et il utilisait ce réseau, il utilise aujourd'hui ce réseau Truth Social pour toujours poster énormément de choses en permanence. Mais float the zone, c'est un peu ce concept qui a été élaboré au cours de la première présidence de Trump, qui consiste à transmettre énormément d'informations, de nouvelles, mais qui ont pour caractéristique de ne pas être forcément des informations discutables sur des projets ou des programmes, mais plutôt des successions de bombes, de scandales, d'une certaine façon. Alors on peut se demander toujours si ce qui est conscient là-dedans ou non chez Donald Trump, c'est qu'il fait partie d'une stratégie ou non, ce qui est dicté par ses instincts ou par des calculs. Et l'un des exemples de ça, que je vais utiliser maintenant, parce que sans doute de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire du côté européen, du côté de la France, à qui je m'adresse actuellement en langue française, on a tous ça en tête. C'est ce moment, à vrai dire assez étrange, où Donald Trump apparaît devant les caméras de télévision aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et commence à prononcer des phrases qui déclenchent évidemment immédiatement une stupeur, non seulement dans la salle de presse où il s'exprime, mais aussi une stupeur assez visible sur le visage de son homologue israélien Benjamin Netanyahu, qui à ce moment-là entend que Donald Trump annonce le projet des États-Unis de prendre possession, to own, c'est ça le concept, de prendre possession de Gaza. Alors j'en ai parlé la semaine dernière, et la semaine dernière j'ai évoqué cette nouvelle et ce qu'elle pouvait impliquer. Là je m'intéresse à la forme, c'est-à-dire la forme de cette annonce. Ça consiste pour Donald Trump à dire quelque chose qui est tellement en disharmonie, et pour être plus précis même en rupture fracassante, avec des décennies d'histoire, et j'allais dire peut-être même des siècles d'histoire, puisque les Palestiniens sont sur cette terre depuis des siècles, depuis aussi longtemps qu'on puisse peut-être d'ailleurs se remémorer. Les Palestiniens vivent sur cette terre, il n'y a pas de question. Et Donald Trump est tout simplement, avec une nonchalance et une désinvolture, en train de dire que les Américains, les États-Unis vont prendre possession. Le verbe, encore une fois, c'est « to own ». Il dit « to own », donc de posséder Gaza. Alors là, on entend ça, je l'ai entendu en direct, et on se demande si on a bien entendu ce qu'on a entendu. Évidemment, l'une des réactions dans la salle de presse, c'est les questions qui vont arriver en flot continu et assez brutal de la part des journalistes, et marquée par la stupéfaction. Et l'une des premières questions, c'est « Est-ce qu'on a bien entendu ce que vous avez dit ?» Parce que une des conséquences de cette fracassante déclaration, qui en fait a la valeur d'une annonce, puisque c'est le détenteur d'un pouvoir exécutif, et qu'il fait cette déclaration aux côtés du premier ministre israélien, qui ne le contredit pas. Eh bien, un des aspects de cette déclaration, c'est que, évidemment, on se demande comment. Et la question lui est évidemment posée, quelle est votre stratégie, et qu'est-ce que vous voulez dire par prendre possession d'eux ? Alors voilà, bon, on sait ce qui a suivi tout ceci. On sait que dans les heures qui ont suivi ceci, il y a eu immédiatement des séances de rétropédalage de l'entourage de M. Trump, de l'administration de M. Trump. Et puis, les choses sont restées un peu dans les limbes de ce que pouvait vouloir dire cette déclaration de Donald Trump, avec évidemment la lancinante question de quelle est cette prise de position, quelle est cette prise de possession de Gaza, qu'est-ce que ça implique par rapport à l'éventuelle intervention de l'armée américaine pour occuper Gaza. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Et puis qu'est-ce que ça implique, bien sûr, du point de vue du droit international? Parce qu'il y a des gens qui vivent à Gaza et M. Trump ne peut pas l'ignorer. Et que s'il est en train de suggérer que la population de Gaza doit être déplacée, ça porte un nom en droit international, un déplacement forcé de population, puisque ces gens, les gens qui vivent à Gaza, les Palestiniens qui vivent à Gaza, ils vivent à Gaza, au même titre que M. Trump vit dans la Maison-Blanche, et qu'on ne peut pas les déplacer comme ça. Donc en droit international, ça porte un nom. C'est très bien codifié, et depuis longtemps. Donc évidemment, ce qui m'intéresse encore, c'est la forme. C'est cette notion de créer un scandale, parce que c'est un véritable scandale, bien sûr, et qui est un scandale d'autant plus gros que, bien sûr, dans les premières secondes, on se demande si on a entendu ce qu'on a entendu. Ensuite, il confirme, donc on se dit qu'on a bien entendu ce qu'il a dit. Et puis on se demande comment, et il ne répond pas vraiment. Dans les heures qui suivent, son administration, encore une fois, va avoir tendance à pédaler en arrière, tout en n'apportant pas fondamentalement un démenti à ce qui a été dit. Et puis que va faire Donald Trump? Quelques heures plus tard, après que son administration ait en quelque sorte temporisé la chose, il va redire la chose avec les mêmes termes et les mêmes arguments. Et là, à nouveau, évidemment, une nouvelle phase de scandale. Quelle est cette stratégie? Parce que c'est une stratégie de communication qui consiste à dire des choses qui sont évidemment énormes et qui provoquent ce qui est la véritable obsession de Donald Trump dans tout ça, qui provoque, on dirait, du clic, qui provoque de l'attention, qui capte l'attention. Donald Trump n'a qu'une obsession dans sa vie médiatique, n'est-ce pas, après qu'il ait commencé à s'intéresser aux médias à travers son show de télé-réalité, et puis ensuite à travers ses campagnes électorales, son utilisation des réseaux sociaux, et bien sûr aussi son utilisation permanente de la télévision. Donald Trump n'a qu'une idée en tête qui lui vient de son mentor Roy Cohn, l'avocat de New York, qui a défendu Donald Trump dans beaucoup de ses affaires et dans beaucoup de ses démêlés judiciaires. Roy Cohn lui avait toujours dit, quelle que soit la publicité, mauvaise ou bonne, c'est de la bonne publicité, même si elle est mauvaise, et peut-être même surtout quand elle est mauvaise. Donc toute cette notion de générer, de capter l'attention. Nous sommes dans une société qui repose massivement sur ce qu'on appelle des attention economy, l'économie de l'attention. L'attention que nous donnons aux médias, l'attention, c'est-à-dire le temps que nous passons sur l'Internet, tout cela est monitored, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire tout cela est suivi, est traqué, est capté, enregistré, et ça alimente des stocks de données personnelles qui, je l'ai déjà dit, ont plus de valeur dans l'économie mondiale aujourd'hui que la totalité des transactions sur le marché du pétrole au niveau global. Donc, Trump a cette passion, cette compulsion d'essayer de capter l'attention. Encore une fois, on revient à cette notion, il s'agit de flood the zone, c'est-à-dire il sature l'espace, il inonde l'écosystème des médias de nouvelles, de décisions qui sont toutes plus outrageantes les unes que les autres, c'est la logique de l'outrage qui domine, et toujours avec une forte dose d'ambiguïté et d'incompréhension possible, qui fait qu'on secoue la tête en se disant « Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ?» Et que lorsque les questions viennent sur qu'est-ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qu'il vient de se dire, on n'a pas de réponse très précise. Il fait cela, alors pas uniquement sur l'affaire de Gaza, j'ai juste pris l'affaire de l'annonce sur la prise de possession. Owning Gaza, c'est ça le terme en anglais. L'annonce sur la prise de possession de Gaza n'est qu'un exemple parmi d'autres. Évidemment, la plupart des choses que Donald Trump annonce en permanence à la télévision durant les dernières semaines ne sont pas rapportées, pour autant que je sache, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est très important ce que je suis en train de dire là. Ce qu'il fait avec Gaza, il le fait constamment et sur une diversité de sujets qui donne proprement le vertige. Et c'est un des aspects de ce que je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, de la temporalité du Trumpisme. Il y a cette temporalité de saturation de nouvelles qui arrive avec une vitesse folle, toujours chargée de scandales, d'outrages et d'ambiguïté, qui fait que l'attention est captée. Donald Trump est un véritable showman. Ça, il faut le dire, c'est comme ça qu'il opère. J'en parle parce qu'il y a une autre temporalité là-dedans. C'est celle de la durée. Il y a une espèce de fréquence frénétique de toutes ces nouvelles qui font que une nouvelle chasse l'autre et que une nouvelle écrase une autre nouvelle avec cette impression que il se passe toujours quelque chose. Et c'est cette notion d'attraction et d'attention que j'étais en train de décrire tout à l'heure à travers une notion de rapidité, de vitesse, qui est en fait assez typique de la psyché américaine, qui est celle du film d'action américain, dans lequel un plan dure rarement plus de 3 ou 4 secondes. Sont des films avec, s'il y a des amateurs ici et des amatrices, hein, la plupart des films de Marvel, des films d'action américains qui, là aussi, flood the zone, qui envahissent l'espace médiatique mondial et les écrans mondiaux, avec des profits absolument considérables. On parle de films, ceux des studios Marvel, par exemple, qui, à chaque fois qu'ils sortent, rapportent des milliards de dollars au box-office, d'accord ? Et donc, c'est cette notion aussi que c'est cette temporalité américaine de la rapidité et du fast-paced, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire de la rapidité des coupes et de la rapidité du rythme, est ancrée dans la pratique médiatique et dans le rapport au temps de Donald Trump, qui vraiment est en harmonie avec une certaine psyché américaine qui a un attention span, une capacité d'attention extrêmement, extrêmement réduite, juste de quelques secondes. On se branche et on se débranche à une vitesse folle. Mais alors en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, une énorme dilatation du temps. C'est-à-dire que tout ceci peut prendre des heures en vérité. Je ne sais pas si on se rend compte de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, je parle de ce côté-ci de l'Atlantique où je me trouve, c'est-à-dire aux États-Unis actuellement. Je ne sais pas si on se rend compte du fait que dans une seule journée, Donald Trump passe des heures à s'exprimer devant des caméras de télévision. Alors, une séance emblématique de ça qui a fait légèrement irruption dans les médias en France, pour ce que je sais, il y a quelques heures, c'est l'interminable conférence de presse. Je dis interminable parce que je l'ai regardée pratiquement en entier et ça a duré plus de 2 heures, au cours de laquelle Donald Trump était assis dans son fauteuil dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, avec à peu près rien sur son bureau, ce qui est aussi une scène très étrange, parce que c'est évidemment un bureau qui est comme une sorte d'accessoire de théâtre. Il n'est pas visiblement en train de travailler sur ce bureau. Non, sur ce bureau, ce jour-là, il y avait une rangée de stylos avec lesquels il était prêt à signer encore des décrets de façon théâtrale, en montrant ses décrets. On a vu ces images ornées de sa gigantesque signature signée au marqueur et qui propose donc une sorte de show du décisionnisme qui marque la présidence de Donald Trump, puisqu'il prend des décrets qui ont valeur de loi sans passer par le Parlement et qu'il en fait toute une performance. Donc on avait les stylos, on avait le bureau vide, à part les stylos. Et puis, on avait Elon Musk qui était là, debout, avec son fils très jeune, peut-être 3 ou 4 ans, sur les épaules, qui faisait toutes sortes de mimiques étranges et parfois cocasses, avec une espèce de triple plan cinématographique, celui de Donald Trump assis dans son fauteuil, qui, et c'est une image assez rare, écoute patiemment Monsieur Musk. Monsieur Musk qui parle, le fils qui fait des grimaces, qui s'empare de la casquette Make America Great Again, c'est-à-dire la casquette avec le slogan MAGA de Trump, la casquette noire d'ailleurs, j'avais fait des commentaires sur ce basculement du signe. On est passé de la casquette rouge à la casquette noire avec des lettres d'or ou avec des lettres noires ou grises comme celle qui ornait la casquette de Monsieur Musk il y a 2 jours dans le bureau ovale. Et cette séance a été interminable, littéralement interminable, mais là encore, saturée de propos de Donald Trump et de Elon Musk, qui alarmait non seulement les journalistes présents, mais aussi les spectateurs et les spectatrices de cette scène qui littéralement interrompt la télévision. C'est-à-dire que je regardais ceci sur une chaîne du câble de news, c'était CNN en l'occurrence, mais j'ai aussi voyagé sur d'autres chaînes pour voir ce qui se passait. Toutes les chaînes représentaient la même chose, cette longue conférence de presse, sans aucune interruption publicitaire. Et c'était bien sûr ce qu'on appelle le breaking news à l'américaine, où on a ce phénomène extrêmement étrange de, encore une fois, temporalité, où c'est la notion du breaking news, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est quelque chose qui interrompt le cours et le flot de l'information. C'est comme une sorte de télévision qui s'interrompt elle-même. Voilà, et c'est une télévision qui repose sur une notion de l'interruption. Et donc dans cette espèce d'auto-interruption de la télévision, dans cette espèce de performance permanente, où on a à la fois des ruptures permanentes avec des annonces permanentes qui sont toutes plus outrageantes et ambiguës les unes que les autres, eh bien en même temps, on a un phénomène qui est tout aussi étrange et qui est contradictoire avec la notion de l'interruption, de répétition et de presque de refrain. On a une sorte de refrain de l'interruption. Et l'interruption est là pour couper le flot de l'information, le flux de l'information, avec un autre flux d'information qui est celui de l'interruption et de la crise. Donc la raison pour laquelle je parle de ceci, pour terminer, c'est que lorsque on se réfère aux deux événements que je viens brièvement de commenter pour parler de cette temporalité du trumpisme, de cette double temporalité, celle en gros de l'état d'exception permanent, de l'état d'urgence permanent, et de la manière dont cet état d'urgence, d'un autre côté, de façon contradictoire, devient une espèce de ronron quotidien. Eh bien, on parle de Elon Musk, on parle de Gaza, ça c'est ce dont on parle du côté extérieur aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis ? Ça n'est pas rapporté. Or, par exemple, en passant une journée entière à regarder la télévision américaine, on passe la journée avec Trump. C'est-à-dire qu'il fait partie de votre salon. Et quand on va sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Et puis quand on ouvre le moindre journal quotidien, sérieux ou pas, ou moins sérieux d'ailleurs, 90% des pages et des titres sont consacrés à la présidence de Donald Trump actuellement. En gros, d'actualité internationale, il est extrêmement peu question. Quand j'ouvre un journal français, je vois qu'on parle beaucoup de l'Ukraine, qu'on parle beaucoup de la Palestine, qu'on parle de toutes sortes de théâtres de guerre et d'opérations, et puis aussi d'affaires intérieures, évidemment. En Allemagne, il va y avoir des élections très très sensibles le 25 février. En France, on a un gouvernement qui essaye de survivre, etc., etc. De cela, il n'est absolument pas question dans les médias américains, y compris les médias qui en priorité devrait être dévouée à l'actualité internationale, en commençant par les grands journaux nationaux quotidiens. Ceux qui ont un bureau éditorial, comme on dit, c'est-à-dire une rédaction et une conférence de rédaction, comme le New York Times, le LA Times, le Washington Post, et j'en passe. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Comment Donald Trump et son équipe parviennent à remplir la plupart des colonnes des journaux, qu'ils soient sérieux ou moins sérieux, la plupart des fils d'information des réseaux sociaux ? Eh bien, on a par exemple le fait que Donald Trump, et ça s'est produit dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier, il a dit des choses comme le flux de l'eau qui sort des robinets dans les hôtels et dans les maisons. Il a dit aussi, et ça s'est apparu dans les heures qui ont passé, il s'est exprimé sans autre forme de protocole en disant qu'il allait signer des décrets pour empêcher la diffusion des pailles, les pailles qu'on utilise pour boire dans les verres, des pailles en papier, que maintenant, à partir de maintenant, grâce à son action, les pailles sont en plastique. Mais dans le même flux, il a annoncé que le débit des toilettes, hein, des toilettes publiques, le débit de l'eau dans les toilettes publiques allait être modifié. Mais également, il y avait le Super Bowl, c'est-à-dire il y avait le championnat américain, la finale du championnat américain de football américain qui avait lieu. C'est un grand événement qui a été suivi par 127 millions de spectateurs, qui a eu lieu le 9 février, donc dimanche dernier. Au cours de la finale, M. Trump était présent, il a été visible, et il a fait des déclarations qui disaient qu'il était temps de changer les règles du jeu de ce sport, et donc il s'autorise de plein droit à faire des déclarations sur ce genre de choses. Bref, il sature aussi l'espace en touchant à des choses. Imaginons en France un président qui arrive pour assister à la finale de la Coupe de France de football et prononce des phrases indiquant qu'il est temps de changer les règles sur l'entrée dans la surface de réparation au foot et que désormais la règle du hors-jeu allait être modifiée. Il s'intéresse et il s'immisce à peu près dans tout. Et ça déclenche des conversations parce qu'évidemment, il choisit toujours des sujets qui font parler les règles du foot. L'idée qu'un président puisse interférer avec les règles du foot et les règles d'arbitrage, évidemment, ce sont des choses qui font parler. Et donc, on a ce phénomène de saturation permanente. On a ce rapport au temps qui m'amène à élaborer ici une conclusion. Une conclusion qui revient à quelque chose que je vais évoquer de façon plus précise dans les semaines qui viennent, à savoir le fait que la temporalité médiatique que je viens de décrire ici, avec cette espèce de temps qui est un mélange d'état d'urgence et d'état d'exception permanent, où on a des outrages permanents, des scandales permanents, des déclarations aussi ambiguës que bizarres et fracassantes, mélangées avec une impression que toutes ces déclarations créent aussi un effet de routine. C'est-à-dire que on a aussi une saturation par un effet de routine qui est lié au flot permanent d'informations toutes presque absurdes. Il y a cette notion qu'un état d'exception peut devenir la règle. Et le régime politique dans lequel un état d'exception devient la règle, bien sûr, tout ça a été codifié pendant la Seconde Guerre mondiale par un juriste allemand qui travaillait pour les nazis. Eh bien, c'est le rythme et la temporalité politique de la dictature. Alors, nous reviendrons sur ce sujet une prochaine fois, en sachant que, bien sûr, ça va durer pendant des années et que les quatre premières années de la présidence Trump étaient marquées par ces déclarations qui, pour beaucoup, n'avaient pas d'effet réel, alors que la nouvelle présidence de Donald Trump, on le sait, va produire des effets très réels.
Hey, baby, don't you want to go? California to my sweet home, Chicago. I'm going to California from 13 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago.